L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de victoire enseigné par un de nos orateurs invités. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Donc, on va commencer tout de suite avec ce thème des relations bénies pour aimer et être aimé. Et en fait, derrière le mot « relation », pour que ce soit clair dès le début, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de cours, un tas de choses qui se font sur les relations, comment bien interagir avec les gens, c'est une bonne chose. Mais derrière ce mot « relation », avant tout, c'est le mot « amour » qu'il y a. Et la Bible nous dit qu'on va lire ensemble tout de suite dans Marc au chapitre 12. Au chapitre 12 et au verset 29. Voici, Jésus répondit, voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela, plus grand que ces deux commandements-là, d'aimer Dieu de toute notre force et de nous aimer les uns les autres, d'aimer l'autre comme soi-même. Donc ce n'est pas un message, un petit message, les relations, c'est vraiment, ça fait partie des deux plus grands commandements que Jésus lui-même a donnés et nous devons apprendre dans notre marche chrétienne à nous aimer, à aimer les autres. Nous devons apprendre à bien aimer les autres. Et dimanche, j'ai dit à l'église pour présenter cette série que le fait d'aimer, il y a beaucoup de gens, c'est pas un problème d'aimer, mais c'est que on aime mal. On aime de la mauvaise façon et la manière dont on aime, c'est un amour qui blesse, c'est un amour qui peut être envahissant, un amour qui peut déranger, un amour où on reçoit rien en retour parce qu'on aime mal et puis finalement on se retrouve toujours seul, on se retrouve victime, on se retrouve malheureux et puis tout le monde a toujours tort, mais la véritable raison très souvent c'est que nous aimons mal. Et pourquoi nous aimons mal très souvent? C'est parce qu'on est on a une mauvaise image de nous-mêmes, on ne sait pas qui nous-mêmes nous sommes. Et la parole nous dit « aime ton prochain comme toi-même ». Donc si toi-même tu ne t'aimes pas, tu vas mal aimer ton prochain, c'est certain. Si toi-même tu te méprises, tu risques d'avoir des relations de mépris envers ton prochain. Donc c'est pour ça que la première étape, une fois qu'on a saisi l'importance de s'aimer, d'aimer le prochain et que on a saisi aussi l'importance d'investir dans les relations, on a saisi l'importance de changer, de savoir qu'on a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas chez nous, c'est de comprendre, si j'aime mal, c'est peut-être que je ne m'aime pas non plus. Et là, le deuxième point, ça va être d'apprendre qui je suis, d'apprendre que moi-même, je suis aimée de Dieu, que moi-même, j'ai une valeur. Et que parce que j'ai une valeur, parce que je suis sécure, je peux aimer librement les autres sans avoir peur d'être attaquée, sans avoir peur d'être encore une fois trahie, d'être encore une fois abandonnée. Et je vais pouvoir aimer sans retenue, je vais pouvoir aimer de tout mon cœur. Et c'est à peu près les points qu'on va voir ce soir, qu'on va développer, et la semaine prochaine on en développera d'autres, mais pour cette semaine, c'est ça qu'on va voir. Et je vais vous lire aussi Galates 5 13 qui nous dit: frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Et ça, c'est le danger. Quand on ne s'aime pas ou quand on s'aime mal, on se mord et on se dévore les uns les autres. Et une personne qui a été blessée, une personne qui a été mal aimée, c'est quelqu'un, on peut dire, qui a été mordu, qui a été dévoré et il a eu une blessure et ça a fait du mal. Et on n'est pas censé s'aimer de cette manière-là. L'amour qu'on se porte les uns aux autres doit construire quelque chose, doit apporter quelque chose de bénéfique. Il ne doit jamais te retirer quelque chose. En tout cas, te retirer quelque chose dans le sens où tu as été blessé et on t'a arraché le cœur, on t'a mal aimé. Et ce n'est pas le véritable amour dont la Bible nous parle. Et je vais vous lire un dernier passage pour l'instant. Dans Jacques 2,8, si vous accomplissez la loi royale, la loi du royaume de Dieu d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même et vous faites bien. La loi royale, c'est la loi du royaume de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, nous faisons partie du royaume de Dieu. Et si nous voulons marcher selon les principes du royaume de Dieu, la Bible nous dit « aimez-vous les uns les autres ». Ce n'est absolument pas un principe humain, ni un principe hippie, ou je sais, peace and love, ou je sais trop quoi, c'est biblique. C'est pas les hippies qui ont inventé l'amour, aimez-vous les uns les autres, faites pas la guerre, etc. Non, c'est la Bible qui nous dit aimez-vous les uns les autres. C'est la loi royale, la loi supérieure, la loi du royaume de Dieu, la manière dont nous devons apprendre à fonctionner les uns envers les autres. Sauf que aujourd'hui, on a souvent des relations, et on va parler des blessures par rapport. Mais on a souvent des mauvaises relations, entre autres aussi parce que le monde nous apprend que on doit, c'est le meilleur, c'est chacun pour sa peau et c'est le meilleur qui gagne, c'est le plus fort qui gagne. Donc tout le monde essaye de retirer la part du gâteau, tout le monde essaye de tirer le plus de profit possible de la situation, le plus de profit possible d'une personne, le plus de profit possible de n'importe quoi. On essaye tout le temps de chercher notre intérêt, de chercher notre privilège et on ne construit pas sur l'amour, on construit seulement sur l'égoïsme parce que le monde nous enseigne que ce que tu ne prends pas, quelqu'un d'autre va le prendre à ta place. Et le monde nous enseigne que c'est à nous de nous battre pour réussir, c'est à nous de nous battre pour accéder à la réussite, et au même si on doit écraser les autres. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de principes que Dieu a lui-même institué, des principes qui font partie de Dieu, comme l'intégrité, comme l'honneur, qui ne sont plus du tout enseignés, qui ne sont plus du tout appliqués, parce que dans ce monde, les gens vont dire ça ne marche pas. Si vous faites des études dans les affaires, on va vous apprendre, on va pas vous apprendre, tu dis toujours la vérité, tu dis toujours, tu vas toujours marcher dans la lumière, tu te laisseras pas corrompre, ça va être le plus gros profit que tu peux faire, peu importe le moyen que tu le fais, c'est parfait, c'est ça la réussite. Et c'est comme ça qu'on est éduqué aussi, même déjà à l'école. Et c'est pas étonnant qu'aujourd'hui on se retrouve dans une société où les gens ne savent plus c'est quoi vraiment être un ami, les gens ne savent plus c'est quoi être un couple, les gens ne savent plus c'est quoi être une famille, les gens ne savent plus c'est quoi être une église, une vraie église avec une communion fraternelle, une église où on ne se mord pas, où on ne se dévore pas, mais une église où on va s'aimer les uns les autres. Et donc, comme je vous disais, la première chose, c'est de voir dans votre cœur, est-ce que vous avez des blessures ? Et on va pas faire une thérapie ce soir, mais on va passer au travers de certains points. Et je crois que l'Esprit de Dieu va pointer des choses en vous. Et soyez juste disposés, soyez assez humbles pour reconnaître que c'est l'action du Saint-Esprit qui est en train de vous dire « ça, ça te concerne et ça, il faut que tu le travailles. Accepte-le car c'est la vérité. » Et c'est la vérité nous affranchit. Donc ce soir, soyez délivrés de toutes ces choses qui vous empoisonnent la vie, qui empoisonnent vos relations, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous, il y a des choses, c'est cyclique. Ça fait 30 ans, 40 ans, 20 ans, 10 ans que vous transposez exactement les mêmes problèmes dans toutes les relations et que toutes vos relations s'arrêtent plus ou moins de la même façon, mais comme l'expression le dit, si Bob a un problème avec tout le monde, c'est Bob le problème au final. Donc si vous avez un Bob qui traîne dans votre âme, ce soir c'est le temps de tuer Bob, ok ? On identifie Bob et on tue Bob. Kill the Bob. Kill Bob. Ils auraient dû faire ça comme film, ça aurait été plus gagnant. Donc l'insécurité. Choisir l'insécurité ou choisir l'amour. Il y a un proverbe qui nous dit, proverbe 18-19, « Un frère offensé est pire qu'une forteresse et les conflits sont pareils aux verrous d'un château. » Si vous avez été offensé, la Bible dit, et que vous n'avez pas réglé cette offense, la Bible nous dit que vous êtes pire qu'une forteresse. Ça veut dire que personne ne peut vous atteindre, que personne ne peut être proche de vous, que vous ne pouvez pas avoir une réelle intimité, une réelle relation authentique avec les autres, parce que vous êtes pire qu'une forteresse. Vous êtes fermé, vous avez tout fermé à double tour, il y a des verrous partout et on ne peut pas vous atteindre. Et c'est pas parce que vous êtes fort, c'est parce que vous avez décidé qu'on ne vous blesserait plus. Vous avez décidé que personne ne pourrait repasser par ce chemin parce que quelqu'un est déjà passé et quelqu'un vous a fait du mal. Mais aujourd'hui, vous vous présentez comme ça, comme une forteresse devant les gens et vous réagissez. Et on pense que c'est un caractère. On se dit, ben non, c'est mon caractère. Moi, je suis... Oh, je démarre au quart de tour, moi, mais je suis comme ça. C'est ma personnalité, c'est mon tempérament. Ou alors, bah, moi, je suis discrète, je parle pas aux gens. Mais c'est comme ça, c'est ma personnalité. J'ai toujours été comme ça. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut encore avoir comme trait de personnalité? Vous en avez un à me citer? Bah. Mais en tout cas, on peut avoir des traits de personnalité comme ça qui ne sont pas des traits de caractère, qui sont juste des réactions, qui sont les conséquences d'une blessure qui a été non guérie et qui se manifeste constamment dans votre vie. Et du coup, vous dites, c'est un trait de caractère. Mais ce serait comme quelqu'un qui marche comme ça et qui vous dit, ah ben c'est mon style. Mais en fait, c'est juste qu'il a la hanche déboîtée. Tu te dis, ben ton style est un peu bizarre. Mais, et puis il dit, non, moi je marche comme ça. Non, tu marches pas comme ça, c'est que t'as un problème médical, ta hanche est déboîtée. C'est un handicap, tu peux te faire soigner, c'est pas normal. Non, moi c'est mon style, c'est ma démarche. Et nous, dans notre personnalité, on dit, c'est mon caractère, je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça, c'est une réaction qui se manifeste régulièrement. Et du coup, tu te dis, je suis comme ça. Non, je te le dis encore une fois, tu n'es pas comme ça parce que personne ne naît, personne ne veut devenir une personne amère, une personne agressive, une personne désagréable ou alors une personne qui ne parle pas parce que dès que tu veux parler, il y a ton cœur qui est prêt à sortir de ta poitrine et que c'est ça, c'est pas un trait de personnalité. Pourquoi tu ne parles pas ou pourquoi tu parles? Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça quand les gens te parlent? Est-ce que c'est parce que vraiment c'est ton caractère? Si ce soir tu es honnête avec toi-même, tu peux réaliser et tu peux étudier pourquoi tu réagis systématiquement comme ça. Pourquoi est-ce que tu as des réactions qui sont complètement démesurées et que souvent les gens sont là, bah calme-toi, c'est pas grave. Quand les gens te disent tout le temps calme-toi, c'est pas grave, c'est sûrement que tu as des excès de colère ou tu as des réactions qui sont complètement exagérées comparées à la situation qu'on a vécue. Ah non, je suis comme ça, moi je suis extravertie. Mais quand quelqu'un dit... je sais pas, on marche juste sur le pied et tu fais aïe parce que t'as mal, c'est une chose, mais là, aïe, ça va pas ou quoi, que tu prends les gens par le col et qu'on dit, hey, calme-toi et que ça t'arrive régulièrement. Non, tu peux pas dire, oh, moi je suis comme ça, je pars au quart de tour, oh, faut pas me chercher, hein, oulalalala. Non, c'est que t'as un problème, t'es agressif, c'est pas un bon trait de caractère et c'est pas quelque chose avec lequel tu es né, c'est quelque chose que tu as développé à cause peut-être d'une blessure à cause de quelque chose qu'on t'a fait. Et soyez honnête vraiment avec vous-même ce soir. Et pourquoi c'est important de mettre le doigt dessus? Parce que la Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la peur. Et quand on se dit aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même, tu ne pourras jamais aimer ton prochain correctement, tu ne pourras jamais bien l'aimer s'il y a de la peur, s'il y a de la crainte en toi, parce que tu vas être constamment dans ce mode de réaction. Constamment, tu n'es pas toi-même, tu ne fais pas ce que tu veux faire, tu ne dis pas ce que tu veux dire, tu ne réagis pas comme tu voudrais réagir, mais constamment, tu réagis pourtant, tu ne fais... Et c'est comme inexplicable pour toi. Et en fait, il y a parce que t'es rempli d'insécurité. T'es rempli d'insécurité et ça se manifeste forcément et automatiquement dans nos relations. Parce que nous, avec nous-mêmes, ça se passe bien en général.
en général, et on se fâche pas trop contre nous-mêmes. Ça arrive quelquefois qu'on puisse se parler, mais les gens qui nous énervent le plus, c'est pas nous, c'est les autres. D'accord? Les gens qui nous tapent le plus sur le système, c'est les autres. Les gens qui nous dérangent le plus, c'est les autres. Les gens qui nous blessent, c'est les autres. On est bien d'accord que c'est les autres. Donc c'est sûr que c'est dans nos relations avec les autres que ça va se manifester. Parce que nos relations, ça va être comme un miroir. Les personnes en face de toi vont te renvoyer des choses, vont te pousser à réagir, vont te pousser à avoir une interaction, et ce sera comme un miroir pour ce que tu n'as pas réglé dans ta vie. Et là, on va voir différentes choses, différents points de la manière dont on peut mal réagir. Bon, ce soir, ça va être très axé sur le mal aimé. Donc, il faudra revenir la semaine prochaine pour savoir comment bien aimer. Mais... Ah, la semaine d'après... 1 Corinthiens 13... au verset 4 et 6, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et là, quand on arrivait à ce niveau-là d'amour envers les autres, on est vraiment bon. Mais tous, on a besoin de travailler dans notre caractère, on a besoin de travailler dans nos relations. Et certains, encore une fois ce soir, on va vraiment parler plus des blessures et de l'insécurité. Certains, vous n'aimez pas de cette manière-là. Votre amour n'est ni patient, ni plein de bonté. Votre amour recherche constamment son propre intérêt. Votre amour n'aime pas la vérité. Ton amour n'aime pas, ne pardonne pas. Ton amour ne croit pas tout. Ton amour soupçonne constamment le mal. Et ça veut dire qu'on a une défaillance quelque part. Et c'est pas une défaillance qui est irréversible, une défaillance, on ne pourra jamais rien faire. Non, parce que la parole de Dieu est là. Et si Dieu nous dit que l'amour, c'est comme ça, moi, je décide de croire que je peux aimer de cette manière-là. Je peux expérimenter cet amour-là. Je peux premièrement expérimenter cet amour de la part de Dieu et je peux après manifester cet amour dans ma vie. Je peux manifester cet amour dans mes relations et expérimenter des relations bénies, expérimenter des amitiés bénies, expérimenter une vie de couple bénie, parce qu'un couple, c'est avant tout une relation. Et quand on est défaillant, justement, la Bible nous dit qu'un aveugle ne peut pas mener un aveugle, sinon tous les deux vont tomber dans la fosse. Et souvent dans une relation, quand il y en a un qui blesse, un qui part, un qui ceci, un qui cela, c'est parce que les deux étaient aveugles et les deux sont partis dans la fosse. L'un a cherché son intérêt, l'autre a cherché son intérêt, ils sont tirés l'un et l'autre, ils sont écartés, ils sont dévorés, ils sont mordus et finalement les deux ont été détruits. Personne n'a gagné. Ça, on en parlera aussi, le fait de gagner, le fait de vouloir avoir raison par-dessus la vérité. Ça sera un point important qu'on verra la semaine prochaine, très certainement. Donc, on va voir des réactions qui arrivent régulièrement chez les personnes qui ont été blessées, qui n'ont pas traité ces blessures, mais qui manifestent la blessure, la conséquence de la blessure dans leur relation. Alors, premièrement, on peut voir la susceptibilité. Et c'est une liste qui est plus ou moins complète, ou plus ou moins incomplète, comme vous voulez, mais parce qu'il y a plusieurs choses, donc on ne va pas tous les faire. Je vous ai dit, on n'est pas là pour faire une thérapie, c'est juste, on va tirer les gros points, et je crois que l'Esprit de Dieu va vous parler et qu'il va aller plus en profondeur selon votre cas à vous. La susceptibilité, alors ça, c'est un des traits, une des manifestations les plus fréquentes. Pourquoi ? Parce que si tu as une blessure, si tu n'as pas de blessure plutôt, si je fais ça à Eric, il fait rien parce qu'il a pas mal, ça lui fait pas mal, ça l'a pas blessé, je lui ai pas arraché le bras, je lui ai pas griffé, je lui ai pas fait de mal. Mais par contre, imaginez s'il avait une plaie ouverte et que ça saignait. Je ne toucherai pas, déjà, premièrement. Mais imaginez s'il avait une plaie toute ouverte, pleine de... et que je faisais exactement la même chose. Là, il aurait une réaction totalement différente. « Ah, et ça va pas, pourquoi tu m'as touché ?» Et j'ai dit, bah, « Excuse-moi, je savais pas. Mais pourquoi on ne touche pas quand on sait que ça fait mal ?» Mais s'il avait... Quand on s'habille, notre âme est habillée et on ne voit pas les blessures intérieures forcément des gens, mais on appuie dessus sans faire exprès quelquefois et puis on est obligé d'appuyer dessus, mais c'est parce que ce n'est pas censé faire mal. On n'est pas tout le temps responsable de la réaction des autres. C'est sûr, on doit faire notre effort pour ne pas faire exprès de faire du mal aux autres. Si je lui mets une claque, là, clairement, je veux lui faire du mal. Mais là, si je lui fais juste ça, Eric, je voulais juste lui parler, je voulais juste lui faire signe, donc c'est pas censé lui faire mal. Et là, s'il avait une réaction démesurée, « Hey, tu m'as fait mal, ça va pas ?» Je dirais, bah, excuse-moi de je ne sais pas quoi d'ailleurs. Mais qu'est-ce que ça va créer même chez moi? C'est que j'éviterai de m'approcher d'Eric parce que je trouverais un peu trop susceptible. Parce que je lui dis, oh bah, t'as un beau chandail aujourd'hui. Pourquoi celui d'hier il était pas beau? Ben non, j'ai pas dit ça, mais. Et les... Ou alors, ah Eric, tu pourrais parler un peu moins fort? Hey, tu te prends pour qui pour me dire de parler moins fort, dis donc, je parle aussi fort que je veux. Ça, c'est les gens qui sont susceptibles de la moindre remarque, ça crée tout de suite une réaction. Là, j'ai fait des réactions agressives, parce que je parlais d'Eric, mais... ça... Susceptibilité, Eric. Mais il y a des gens, ça, la susceptibilité, ça va pas du tout créer de l'agressivité. Ils vont se mettre à pleurer dès que tu leur dis quelque chose. Mais je pense que tes cheveux, ta mèche, elle sort. Pourquoi tu me dis ça? Je suis toujours mal coiffée. Et tu te dis, bah, excuse-moi, je voulais juste te dire que ta mèche était défaite. Et vraiment des petites choses. Et puis au fur et à mesure, ces gens-là, tu sais plus comment leur parler. On dit qu'on marche sur des œufs, mais t'oses plus les approcher et t'évites toute forme de communication parce que tout tourne au drame ou alors à des discussions sans fin ou à des mails et des trucs et des explications sans fin alors que t'as rien voulu dire de spécial. Mais la personne est tellement susceptible que ça a touché quelque chose qui a fait mal. Le fait d'avoir une remarque, ça a fait ressortir des blessures gigantesques pour lesquelles tu n'as rien à voir. Tu n'as absolument rien fait. Ton seul tort, c'est d'avoir touché là où ça faisait mal. Et donc, la susceptibilité est quelque chose, c'est clair, à éradiquer de nos vies parce que on éloigne les gens de nous. Et la susceptibilité est un symptôme pour nous dire qu'il y a quelque chose chez nous qui n'a sûrement pas été réglé. Et quelquefois, les gens ne sont pas susceptibles, surtout. On peut rire de plein de choses. On va rire, par exemple, de, je sais pas, on peut rire de la façon dont ils chantent. Et là, la personne va rire. Mais là, d'un seul coup, on va rire de ses cheveux. Ah là, c'est beaucoup moins drôle. Là, la personne se ferme parce que tout ce qui a attrait à son physique, c'est quelque chose où elle a beaucoup d'insécurité. Dès que tu lui parles de son physique, elle vient tout de suite, elle se ferme, elle se braque parce que c'est quelque chose où elle est totalement insécure et on ne peut faire aucune remarque. Donc ça, c'est à vous de voir. Est-ce que dans ma vie, il y a de la susceptibilité? Est-ce que très souvent, je réagis comme ça, on me dit la moindre remarque et ma réaction est complètement démesurée. Et vous le voyez, honnêtement, les gens susceptibles, ce sont des gens qui sont difficiles à côtoyer et des gens à qui on ose difficilement dire la vérité pour éviter tous les drames, pour éviter toutes les discussions, comme j'ai dit, sans fin. Et c'est dommage, l'amour aime la vérité. On doit aimer la vérité, on doit être plus attaché à la vérité qu'à nos propres opinions, qu'à nos propres « oui, mais moi, je pense que ». Qu'à fin, nos « moi, je pense que » sont renversés par la vérité parce qu'on pense mal. Donc, la susceptibilité est le symptôme qu'il y a une plaie à vif. Et là, parenthèse, je parle des blessures parce que vous êtes tous rendus à un âge plus ou moins mature, vous êtes tous des adultes. Donc, la plupart du temps, oui, c'est des blessures. Mais quelquefois, on le voit que chez les enfants, un enfant peut être susceptible. Pourtant, il n'a pas été spécialement blessé, mais ça peut être qu'un... un petit truc qui ressort parce que peut-être que ses frères et sœurs ont l'habitude de beaucoup l'agacer. Et puis là, on voit que c'est quelque chose qui ressort. Et ça, c'est, on doit aider nos enfants à ne pas développer ce genre de choses parce que un enfant qui est susceptible déjà à 5 ans, c'est un enfant qui le sera si ça n'est pas traité encore plus à 10 ans. Et c'est quelqu'un qui à 20 ans sera ultra sensible. On pourra lui faire aucune remarque. Donc quand les enfants sont encore jeunes, c'est le temps de vraiment les éduquer, mais pas les éduquer, de les punir, hey, t'es susceptible, tu vas arrêter ça. C'est les éduquer dans l'amour et dans la sécurité et leur apporter cette sécurité dont ils ont besoin pour leur dire, regarde, c'est pas la peine que tu le prennes mal, ce que je te dis, c'est parce que je t'aime. Et vraiment, en éduquant comme ça nos enfants, en insufflant, en déposant, en investissant une correction dans l'amour régulièrement dans leur vie quand on voit des choses, ça va automatiquement et rapidement les redresser. Et pour les enfants, c'est normal parce qu'ils sont en train d'apprendre, ils découvrent la vie et puis ils se frottent à d'autres gens, ils se frottent à d'autres adultes aussi, à l'école, aux professeurs, aux autorités, etc. Et ça peut comme développer quelques petites frictions en eux. Et puis on peut voir des petits symptômes comme ça et c'est important de les traiter et pas juste se dire « Oh, c'est juste des petites histoires d'enfants ». Parce que les petites histoires d'enfants qu'on peut voir dans les cours d'école, c'est exactement les mêmes histoires qu'on retrouve aujourd'hui dans nos églises. Les histoires qu'il y a dans la cour d'école, c'est les histoires qu'on retrouve dans les églises. Oui, mais un tel m'a dit ça. Oui, mais un tel ne m'a pas dit ça. Et puis, il n'a pas voulu me prêter ça. Et là, dans l'église, c'est exactement les mêmes histoires, sauf avec des histoires d'adultes. Donc là, c'est plus un tel a pas voulu me partager sa collation, c'est un tel a pas voulu me prêter de l'argent. Mais c'est exactement les mêmes histoires. Et si vous éduquez vos enfants selon les voies de Dieu, dans l'amour et dans une certaine fermeté pour qu'ils développent le caractère de Christ, c'est des enfants qui, rendus à l'âge adulte, ne feront pas de division, ne feront pas d'histoire. C'est des enfants qui marcheront dans l'honneur, qui marcheront dans la stabilité, qui marcheront dans la fidélité et qui auront appris à développer et à faire grandir le caractère de Christ en eux. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc on en revient à l'agressivité. L'agressivité, bon, tous un peu, ils se rejoignent. L'agressivité, c'est quand tu vas dire quelque chose à quelqu'un, comme j'ai dit, « Oh, t'as un beau chandail aujourd'hui. » Et là, tout de suite, « Oh, bah pourquoi il était pas beau celui d'hier ?» Oh, ça part là directement. La moindre parole, c'est « Oh, bah, est-ce que tu pourrais venir me chercher à 18h ?» Oui, bah écoute, on verra si j'ai le temps. Ok, je te demandais juste ça comme ça. Pourquoi les gens réagissent avec autant d'agressivité? C'est parce que quand on voit dans une équipe de sport, il y a des gens, c'est des attaquants. C'est ceux qui vont droit au but. C'est ceux qui attaquent, ceux qui vont droit devant. Ils veulent rien perdre. Et quelquefois, on est comme ça, on est des attaquants, mais des mauvais attaquants. C'est parce que il y a des gens qui sont égoïstes et qui ne prennent qui font aucun cas de ce qu'il y a à droite et à gauche. C'est comme, écoute, je passe te prendre à 18h, si ça m'arrange, si ça m'arrange pas, tu te débrouilles. Et il y a la deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui ont été beaucoup attaqués dans leur vie, des gens qui ont été beaucoup blessés dans leur vie, à qui on a fait du mal. C'était des victimes et ce sont encore même peut-être aujourd'hui des victimes. Et pour se protéger, il y a cette agressivité, comme un petit chien hargneux qui est là en train d'aboyer dès qu'il entend un bruit ou casou. Et quand on est agressif, on ressent vraiment un petit chien hargneux. Dès qu'on s'approche, qu'on veuille faire une petite caresse ou qu'on veuille taper, le chien, il a la même réaction. Il a et personne veut s'en approcher. Je veux bien le chien hargneux, hein, vous trouvez? Et on ressemble, c'est ça, à un petit chien hargneux qui est là en train d'aboyer, qui est en train de menacer et qui est en train de dire, en fait, quand t'es en train de parler avec agressivité, de démontrer des comportements d'agressivité, c'est juste comme pour faire peur, pour menacer les gens. Au cas où t'aurais l'intention de me faire du mal, sache qu'avec moi, on ne rigole pas. Sache que moi, je suis capable de te rendre le mal que tu vas me faire. Je suis capable de me défendre. Donc, cette personne est tout simplement en train de soupçonner le mal, en train de déjà s'imaginer que la personne en face de lui va à un moment donné lui chercher du mal, va lui faire des problèmes. Donc, tout de suite, je me mets en position d'attaque. Et là, je tire et je tire et je tire. La personne a vois rien venir en face, t'es là, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as juste posé une question, tu viens quasiment de te faire insulter. Et ça, il y a beaucoup de gens comme ça, beaucoup de vieilles dames qui sont devenues comme ça, aigries de la vie, et qui sont des petits chiens hargneux. Dès qu'on leur parle, ça aboie, ça aboie, ça aboie, ça aboie, ça aboie. Et encore une fois, qu'est-ce que ça crée? Ça crée que les gens vont s'éloigner parce que tu peux avoir peur, tu te dis « Ouh, là, elle est un petit peu hargneuse, la petite dame, là !» Ou tu veux te dire « Ben, moi, j'ai pas envie de me faire crier dessus, j'ai rien fait, donc ça m'intéresse pas d'avoir ce genre de relation. » Et une fois encore, vous comprenez que ça écarte les gens. Et les gens blessés se disent « Ben, tu vois, j'ai raison de dire que les gens sont méchants, que les gens sont ceci, parce que je me retrouve encore une fois tout seul. » Mais on se met nous-mêmes dans ce genre de situation. Après, il y a le rejet et la paranoïa. Bon, ça n'est pas exactement la même chose, mais c'est juste que les deux, finalement, vont avoir un peu le même résultat. C'est que le rejet ou la paranoïa, c'est d'imaginer là aussi que les gens ne veulent pas de toi, que les gens ne t'aiment pas, que les gens vont te rejeter dans tous les cas. Donc le rejeté va se mettre à part dès le début. Et puis en essayant de... C'est comme une forme de... C'est un symptôme aussi qui crie à l'aide. Aimez-moi, 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 aimez-moi. Moi, je sais pas comment vous le dire, mais je vais me mettre à part et vous allez me regarder et peut-être que vous allez me voir, peut-être que vous allez m'aimer. La paranoïa, ça fait qu'on va s'éloigner aussi de tout le monde, mais là, c'est parce que on a l'impression que tout le monde nous déteste, que tout le monde nous veut du mal. Quelqu'un te regarde à l'épicerie et puis il te fait un beau sourire. C'est un tueur en série, je suis sûre qu'il veut me tuer. Il va me suivre dans la rue, il va m'attacher, il va me poignarder. Il dit, c'est comme juste, il t'a juste regardé, il t'a fait un sourire et tu es en train tout le temps de voir des intentions malveillantes chez les gens. Ou alors, quelqu'un te fait un compliment. Oh, bah, t'as une belle coiffure aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va encore me demander celui-là? Il va encore me demander un service. Et là, tu dis, au lieu de dire merci, tout simplement, mais merci, c'est gentil. Pourquoi tu dis ça? Tu veux quoi? Et là, les gens se sentent aussi, encore une fois, agressés. Et les gens vont se reculer de vous. Et pourquoi les gens réagissent comme ça, ceux qui sont sujets à la paranoïa ou au rejet? C'est parce que, oui, ils ont réellement été blessés. Oui, ils ont réellement déjà été rejetés dans le passé parce que des gens les ont délibérément mis à part. On dit, toi, on ne veut pas de toi. Ou des gens ont dit, justement, t'as une belle coiffure aujourd'hui. Mais finalement, oui, il y avait un vrai sens caché, un vrai désir caché d'aller chercher quelque chose, d'aller profiter de la personne. Mais c'est pour ça qu'il y a un devoir, une obligation d'être guéri, parce que sinon on va tout le temps fonctionner en fonction de nos échecs, en fonction de ce que les gens nous ont fait dans le passé. Mais ce que les gens vous ont fait dans le passé, c'est plus les mêmes gens aujourd'hui que vous avez en face de vous, et vous surtout, parce qu'on parle des autres gens. Mais c'est nous, notre propre responsabilité, c'est notre responsabilité de changer, c'est notre responsabilité de ne plus être cette victime, de ne plus être le rejeté, de ne plus être celui à qui on a fait du mal. Parce que vous avez une nouvelle identité en Christ, une identité de plus que vainqueur, une identité de bien-aimé. Et ça, c'est un choix de foi, que de croire qu'on peut sortir du statut de blessé, qu'on peut sortir de cette identité de blessé, juste être le blessé, celui à qui on a fait du mal et celui qui avance dans la vie comme celui à qui on a fait du mal. Parce que Dieu vous appelle à grandir et à grandir d'une bonne façon et pas à grandir tout bancal, grandir tout de travers parce que vous avez été amputé d'un bras, je parle de manière imagée, qu'on vous a fait du mal, on vous a amputé d'un bras, on vous a amputé d'une jambe, on vous a arraché un œil. Ça, tout ça, c'est comme vos blessures et que vous décidez, moi non, moi je vais avancer comme ça. Et en fait, tu te rends compte que tu es en train de traîner un handicap dans ta vie, que tu n'arrives pas à fonctionner normalement, que tu essayes de faire des choses comme si tu avais ton œil, ton bras, ta jambe, mais que tu n'y arrives pas. Et la solution n'est pas essayer de vivre avec, comme la thérapie ou la psychologie nous enseigne. Apprends à vivre avec ton mal. Mets le doigt sur ce qui t'a fait mal. Oui, ton passé t'a fait mal. Ton passé a fait que tu as pris ces choix-là. Et c'est vrai, ça c'est une partie qui est vraie. Mais là où ça aide la psychologie, c'est qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a aucune espérance, aucune réelle espérance, si ce n'est d'apprendre à vivre avec ta douleur, apprendre à vivre avec tes blessures, apprendre à vivre avec ça. Non, la Bible, Dieu a une espérance de loin supérieure, une espérance de guérison, une promesse de guérison. La Bible nous dit que Dieu guérit les cœurs brisés et qu'il panse les plaies. Il ne nous dit pas « je vous apprendrai à vivre avec vos blessures, je vous apprendrai à vivre avec ce qui vous charge ». Il a dit « déchargez-vous et je prends soin de vous ». C'est des promesses comme ça qu'il nous a donné, pas « bon, allez, prends tes soucis, prends tes blessures et puis on va avancer avec comme ça ». La Bible nous dit encore quoi ? Que partout où Jésus allait, Jésus guérissait les gens, que Jésus faisait du bien aux gens, que Jésus libérait les gens. Et l'amertume, les blessures, ce sont des prisons et on a besoin d'être libéré. Et c'est ce que Jésus faisait quand il était sur cette terre et c'est ce que Jésus veut toujours faire aujourd'hui et c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui dans ta vie pour briser ce cycle de blessures parce que tu es en train de te faire du mal, tu es en train de blesser ta famille, en train de blesser ton mari, en train de blesser ta femme, en train de blesser tes frères et tes sœurs dans le Seigneur, en train de blesser même tes collègues, en train de blesser tous les gens que tu es en train de croiser et tu deviens un vrai danger public. Et on doit prendre cette responsabilité. Je veux changer. Je veux et je dois changer parce que Dieu m'appelle à grandir, donc je prends ma responsabilité de changer. Et dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui auraient pu réagir selon leurs blessures, mais qui ont choisi de laisser Dieu intervenir dans leur vie. Et là, on parlait du rejet et de la paranoïa. Mais vous voyez David qui a été rejeté, mis à part, mis de côté par son propre père, quand le prophète Samuel est venu, qui cherchait qui oindre, son père n'a pas trouvé bon de préciser que éventuellement il y avait David. Ah oui, lui, c'est comme vraiment celui que t'as oublié dans le fond de ton placard que tu sors jamais parce que non, ça peut pas être lui. Et il aurait pu être vraiment profondément blessé. Peut-être qu'il l'a été blessé, mais en tout cas, le reste de sa vie nous montre qu'il a pas grandi sur cette blessure, qu'il est devenu un roi puissant, un roi juste, un roi intègre. Après, quand il a affronté Goliath, son frère s'est moqué de lui. Il aurait pu dire, si c'est comme ça, moi ça a toujours été comme ça dans la famille. Déjà, quand Samuel il est venu, moi on m'a oublié. Là maintenant, moi je veux venir les sauver avec Goliath. Ils se moquent de moi. Eh ben, débrouillez-vous avec votre géant. Moi je retourne avec mes petits moutons. Débrouillez-vous, tant pis pour vous. David aurait pu garder le meilleur pour lui, aurait pu garder ce que Dieu avait mis en lui pour ne pas sauver son peuple parce que les gens étaient en train de l'attaquer, les gens étaient en train de le mépriser encore et encore et encore. Et si on voit en si peu d'histoire dans la jeunesse de David ces choses-là, on se dit que ça devait être vraiment habituel pour que son frère lui parle comme ça. Oh, toi, en gros, je paraphrase en français courant, toi encore tu veux de la raconter là, tu veux faire ton petit intéressant, mais tu crois que tu crois peut-être que tu vas le tuer Goliath. Si ça avait été un bon frère avant dans ces années passées et que il avait aucune foi, aucune vision et pas vraiment confiance en son frère, mais qu'il l'avait vraiment sincèrement aimé, il lui aurait juste dit « Non, David, non, fais attention, mon frère, tu vas mourir, il va t'écraser et on veut pas te perdre, on t'aime. » Non, c'est pas ça qu'il lui a dit. Clairement, il l'a méprisé. Donc, on peut se dire que ça a été la vie de David, ça a été son lot quotidien, ça a été la manière dont il a été éduqué. Mais David n'a pas pris ça comme une excuse pour rester là et dire « Non, moi, je garde la destinée que Dieu a mis en moi. Je refuse de vivre cette destinée parce que les gens ne croient pas en moi. » On s'en fiche que les gens ne croient pas en vous. c'est ce que Dieu pense de vous. Et David est devenu un roi, comme j'ai dit, puissant. Alors après, il y a aussi Joseph. On va parler de la jalousie en parlant de Joseph. Quand tu vois quelqu'un, tu as tout le temps qui réussit, quelqu'un qui a quelque chose de plus que toi, quelqu'un qui... Bref, de toute manière, un peu tout le monde, parce que la jalousie se manifeste dans un peu tous les domaines, et que ça te fait un petit truc. On a tous déjà été jaloux au moins une fois. Tu sais, c'est ce petit sentiment désagréable, et puis quelquefois, on veut juste pas se le dire que c'est de la jalousie, tout simplement. Honnêtement, dans le fond d'une profonde nous, on se dit bah, « Pourquoi il a ça? Pourquoi moi je l'ai pas ?» C'est pas vraiment juste. T'as presque envie de dire à Dieu, je pense que t'es pas au courant de ce qui s'est passé le mois dernier avec lui, parce que là, il le mérite vraiment pas. Par contre, moi, j'aurais pu éventuellement avoir une promotion. Et on parle de promotion dans tous les domaines. Ça peut être de l'argent, ça peut être un travail, ça peut être un enfant, ça peut être juste une promotion dans l'église ou quelqu'un qui est devenu ami avec quelqu'un. Enfin bref, ça peut être tout et n'importe quoi. La jalousie va se manifester dans tous les domaines de notre vie. C'est juste, comment savoir si t'es jaloux? C'est juste que t'arrives pas à te réjouir pleinement pour la personne. Quand tu penses à ce que la personne a, ça te fait un petit pincement au cœur. Tu t'es pas pleinement content. Tu pourrais pas dire, ben non, je suis vraiment content pour toi. Et ça, vraiment 100% de tout mon être se réjouit pour toi. Et du coup, quand on est jaloux, on va convoiter un peu ce qu'ont les autres. Et puis, on va avoir cette tendance à chercher pourquoi l'autre ne devrait pas avoir ça. Plutôt que, comme la Bible nous dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Apprenons à nous réjouir pour les autres. On va être là, puis... Parce qu'on dit, les amis, on reconnaît nos vrais amis dans l'épreuve, mais on reconnaît aussi nos vrais amis dans le succès et dans la réussite. Parce que quand il y a du succès, il y a de la réussite, nos vrais amis, enfin, en tout cas nos amis proches, qui finalement sont peut-être pas des si vrais amis que ça, après tout, et qui commencent à... Vous voyez qu'ils n'arrivent pas à se réjouir pour vous, vous leur annoncez une bonne nouvelle. Ah ouais, c'est bien, je me suis acheté une nouvelle voiture. C'est bien. C'est bien. Pourquoi ton ancienne ne suffisait pas? C'était pas assez bien pour toi, ton ancienne voiture? Bah, si, mais je me suis acheté une nouvelle voiture et je suis contente de te la montrer. Ouais, bon, en tout cas, j'aurais pas pris ça à l'époque. Ouais, bah, c'est bien. Et puis, en fait, il est juste pas content. Il est juste fâché. Tu sais pas pourquoi il est fâché, et c'est des gens avec qui tu peux pas partager tes réussites, tu peux pas te réjouir, tu peux pas dire « Hey, regarde ce que Dieu a fait dans ma vie », parce que ce que Dieu a fait dans ta vie, cette personne-là le prend et elle poignarde avec. Et finalement, ta bénédiction, tu repars avec ta voiture. Ouais, peut-être qu'elle est pas si bien que ça. Je suis peut-être tombée dans le péché de l'orgueil en m'achetant une nouvelle voiture. Et la personne vient de te voler la joie de ta bénédiction parce qu'elle a pas réussi à se réjouir avec toi. Et si t'es comme ça, que tu te rends compte que t'arrives pas à te réjouir de ce que les autres ont, sache que ce que les autres ont, ils te l'ont pas volé. Ça ne t'appartenait pas. Ce que Dieu leur a donné, la manière dont Dieu les a bénis, la bénédiction que Dieu leur a donnée ne t'appartenait pas. C'est la leur. Toi, tu as ta propre provision quelque part. Tu as ta propre provision à te saisir. Mais si t'es constamment en train de regarder ce que l'autre il a, ben c'est sûr que ça va pas bien aller pour toi. C'est sûr que tu vas avoir des tas de raisons de convoiter ce que l'autre a, parce que l'autre est juste en train d'avancer pour pouvoir il avance dans sa vie et puis il récolte les bénédictions de Dieu. Mais toi, tout ce que tu fais, c'est regarder. Ah ben il est content. Regarde, il est content. Il a encore sa nouvelle voiture. Et il est content. Il s'est acheté un nouveau vélo. Ah, il est content. Et toi, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es juste en train d'observer et de jalouser. Apprenons à nous réjouir pour les autres. Apprenons à apprécier que les autres soient bénis. Et comme Pasteur Joël dit, c'est parce que tu es le prochain dans la liste. Mais quand tu as cette attitude-là, tu te retires toi-même de la liste. Tu es en train de dire au Seigneur, barre mon nom, j'en veux pas de sa voiture, elle est pourrie, je viens de le dire. Je viens de lui dire que sa voiture était pas belle. Et le Seigneur disait, bah, je voulais te donner la même, mais apparemment, elle ne plaît pas. Donc, tant pis pour toi. Et la jalousie est quelquefois, et souvent, occasionnée par une insécurité. Une insécurité qui peut être légitime si t'as jamais été, si t'as toujours été le défavorisé de ta famille, celui qui a jamais de cadeaux, celui qui a jamais de compliments, celui qui est toujours oublié, celui qui est toujours méprisé. C'est sûr, t'as grandi en voyant ce que les autres avaient. Toi, t'avais pas. Il y a des familles, il y a des enfants qui ont des cadeaux et il y en a un qui en a pas. On sait pas pourquoi, mais lui, il en a pas. C'est le David de sa famille. Et là, il commence à se dire, moi, quand je serai plus grand, je ferai jamais ça à mes enfants. Et moi, quand je serai plus grand, je vais leur montrer comment je vais réussir et je vais les mépriser, je vais les écraser. Et c'est vrai que on doit faire attention aussi de ne pas susciter de la jalousie chez les gens en faisant des favoritismes et surtout en tant que parent, parce que ça crée des jalousies et c'est un sentiment qui est fort et quelquefois c'est très difficile de s'en sortir. Et quand on grandit avec cette insécurité de manquer, cette insécurité de « on ne m'a jamais donné », on va essayer d'aller grappiller un peu partout. On va essayer de prendre des choses même qui ne nous appartiennent pas. Et on n'arrivera pas à se réjouir parce que dans notre enfance ou à diverses occasions, à chaque fois que quelqu'un a eu quelque chose par un homme, par la main d'un homme, c'est peut-être, oui, quelque chose qui t'appartenait. Mais Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Et encore une fois, Dieu a ta propre provision pour toi. Et on voit Joseph, l'histoire de Joseph, c'est que Joseph, lui, il était le favori. C'était lui le petit chouchou, c'était lui qui avait tout, c'était lui qui avait le cadeau, c'était lui qui avait l'approbation de son père. J'imagine, ils devaient se disputer et puis tout le monde se faisait disputer, sauf Joseph. Non, toi Joseph, je sais que c'est pas toi. Merci papa. Non, c'est pas moi. Ce sont mes frères qui sont turbulents. Ok, Joseph, il n'y a pas de problème. Ça devait être tout le temps comme ça. C'était injuste. Ses frères ont dû vivre beaucoup d'injustices. Et ils ont vécu beaucoup d'injustices réelles. Pourquoi Joseph avait une tunique ? Pourquoi ? Sérieusement, pourquoi ? C'est injuste. Qu'est-ce qu'il a fait, Joseph, pour avoir une tunique ? À part aller dire à ses frères qu'il faisait des super rêves, vous allez tous se prosterner devant lui, de dire qu'il était le meilleur, et puis... Ça, il n'avait rien fait, Joseph, pour mériter plus que ses autres frères. Et ses autres frères ont commencé à nourrir ce sentiment. Et ce sentiment a poussé jusqu'au désir du meurtre, a poussé jusqu'à vouloir exterminer Joseph. Et c'est pour ça que la jalousie qui est en toi, cette jalousie-là est malsaine. Cette jalousie-là est un poison. Cette jalousie est nocive et ça te pousse non seulement à ne pas te réjouir, mais plus que ça, ça te pousse à vouloir du mal, à vouloir du mal pour l'autre. Et la Bible nous dit que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. On n'est pas content quand il y a une injustice. On n'est pas content quand Joseph est dans la citerne. On n'est pas content quand on va raconter au père que Joseph est mort. Non, l'amour ne peut pas se réjouir de ça. Mais ces frères-là, ils étaient tellement prisonniers de leur jalousie. Ils avaient tellement été victimes de l'injustice que ça leur semblait être la bonne chose à faire. On va se débarrasser de Joseph et enfin, on va être considéré. Enfin, on va être aimé. Enfin, notre père va nous voir. Mais tout ce que ça a fait, c'est que son père a pleuré Joseph toute sa vie et que Joseph n'a jamais été remplacé et que ses frères ont vécu... Ses frères ont vécu, après avoir fait ça, avec, j'imagine, un certain quand même poids de culpabilité. Donc c'est pour ça que la jalousie est vraiment quelque chose à éradiquer, parce que ça va venir pourrir vos relations. Vraiment ça, la jalousie, c'est ultra, ultra nocif. Et peut-être qu'une fois, ma belle-sœur Stéphanie, qui est là, elle pourra vous témoigner, elle a été totalement et totalement délivrée de la jalousie parce que, je vais vous raconter un tout petit peu, parce que elle a été mal aimée. Elle a été mal aimée par d'autres personnes dans sa vie et en partie par un garçon avec qui elle avait des projets d'avenir. Elle a été mal aimée et ça, elle a été très 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 blessée et ça a créé une insécurité extrême en elle qui fait que dans son couple, blessée une fois, elle n'arrivait pas à envisager un futur avec un mari qui allait être là tous les jours de sa vie, qui allait l'aimer tous les jours de sa vie. Elle était constamment jalouse. Jalouse de tout ce qui passait, jalouse de tout ce qui parlait à son mari, de tout ce qui regardait son mari, de tout ce qui s'approchait de son mari. Et c'était une jalousie complètement irrationnelle. vraiment irrationnel et ça lui pourrissait la vie. Elle avait pas envie d'être comme ça, mais elle arrivait pas à se contrôler parce que elle n'avait pas cette sécurité en Dieu pour elle-même et pour son couple. Et elle a été totalement libérée de cette jalousie-là parce que elle a trouvé sa sécurité en Dieu depuis et elle a trouvé aussi des promesses concernant sa propre vie et concernant son couple. Peut-être qu'une fois, elle aura l'occasion de vous témoigner de ça. C'est vraiment un fort témoignage, mais ne laissez pas la jalousie détruire vos relations. Et la jalousie aussi qui pousse à la haine. Et là, encore une fois, la haine, c'est quand tu dis en bon québécois, « je te haïs ». Et il y a des gens que tu haïs, que tu haïs fortement. Et peut-être que tu l'as même déjà dit à des gens, « je te haïs ». Ou sinon, tu peux lui dire correctement, « je te hais ». Mais il semblerait qu'au Québec, il n'y ait plus aucun poids dans ta phrase « je te hais ». Ben, super. Tu veux me dire quoi par là? Donc, je te haïs. Cette haine-là, la haine pousse à la mort. Pousse. Là, c'est le sentiment supérieur de la jalousie. Et Ésaü a haï, là on peut le dire, il a haï son frère Jacob. Parce que, encore une fois, tous ces gens-là, c'est des gens qui ont vraiment subi des blessures. Mais ils ont réagi sur ces blessures. Ils ont mal réagi sur ces blessures. Et comme on l'a vu, David a bien réagi sur ces blessures. David est devenu quelqu'un d'extraordinaire. Il est devenu la personne extraordinaire que Dieu voulait qu'il soit. Mais Ésaü a haï Jacob parce que Jacob a menti, Jacob lui a volé sa place, Jacob a volé sa bénédiction. Vous imaginez ça? Honnêtement, c'est vraiment te faire, mais alors là, doubler. Imagine, tu dois aller retirer ton salaire. Et là, t'as un gros salaire ce mois-ci, le salaire de toute ta vie, la super grosse prime. Et là, il y a quelqu'un qui vient et qui se fait passer pour toi et qui récupère tout ton argent. Et quand toi, tu passes, « Ah non, monsieur, on n'a plus rien. Il y a déjà quelqu'un qui est passé. Quoi ? Mais non, c'est mon argent, c'était à moi, ça m'appartenait. » Imaginez ce sentiment d'injustice. Aujourd'hui, les gens vont aller devant les tribunaux. Là, c'est sûr, tu cours à la police, tu déposes plainte, tu l'accuses et tu le traînes en justice, etc. Parce que tu vis une injustice, tu veux que la justice soit rétablie. Et Ésaü a eu cette haine contre son frère de dire « Il m'a volé ce qui m'appartenait, il m'a pris ma bénédiction, je le haïs !» Et là, il a dit « Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur « Le moment où l'on mènera le deuil sur mon père, va approcher. » Et je tuerai mon frère Jacob. » Là, il a planifié un meurtre. Il a planifié qu'il allait le tuer parce que cette personne-là, il pouvait pas le supporter. C'était trop dur de vivre avec cette personne-là, de vivre cette injustice, de vivre avec Jacob qui allait être là avec sa bénédiction. Non, ça, c'était insupportable, c'était injuste et ça ne pouvait pas se passer comme ça. Et quand on a ce sentiment de haine et ce sentiment d'injustice, on va tout le temps chercher à se faire nous-mêmes justice. On va accuser, on va planifier, pas forcément des vrais meurtres là, parce qu'aujourd'hui c'est difficile de tuer quelqu'un, on n'est plus dans le désert où on vient de tuer quelqu'un, et parce qu'il n'y avait pas de police à ce moment-là, donc personne ne pouvait appeler le 911 pour dire qu'il y a eu un meurtre dans le désert à la deuxième colline. Non, tu le tues et puis tu le laisses là, il se fait manger par des corbeaux. Mais aujourd'hui c'est difficile de tuer des gens, mais on peut... Bien que je vous encourage pas à tuer des gens, mais on peut tuer des gens de manière différente. On peut les haïr d'une manière différente, les tuer à petit feu, leur pourrir la vie, leur chercher, leur vouloir du mal coûte que coûte. Tout faire pour être des vraies nuisances dans leur vie, pour que chaque jour de leur vie, ils se rappellent le mal qu'on leur a fait, le mal que eux vous ont fait. Et je me souviens, moi j'avais... Quand je me faisais garder par une dame qui était très gentille, un peu de caractère. Et là, son mari avait été méchant avec elle toute sa vie. Il avait été dur avec elle, il avait été injuste, il l'avait malmenée, etc. Et puis, en prenant de l'âge, Et c'était un peu rebiffé, la dame. Et elle faisait, c'était des petites choses, mais elle faisait exprès de faire des choses, mais qui l'agaçaient au plus haut point. Elle allait à la poissonnerie, elle lui prenait le poisson qu'il n'aimait pas. Et elle faisait que des choses comme ça, c'était sa vengeance. Mais c'était juste pour lui pourrir la vie. Et là, une fois, je m'en souviens, il lui dit à table, il dit, pourquoi t'as pris ce poisson-là? C'est pas bon. Puis, des trucs, des genres, des sardines crues, là, avec des trucs dedans. Oh. Vraiment, elle y allait fort, hein, de tout son cœur. Puis, elle lui a dit, tu m'as tellement fait suer les dernières années que c'est mon tour maintenant. Et ça a été un petit échange cordial à table. Et ça, on était petits. Et ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, wow. Mais dans ma tête d'enfant, je me suis dit, elle a raison. Pour vous dire comment on pense mal quand on est petit. Mais elle, son mandat pour la fin de sa vie, c'était de prendre sa revanche sur son mari et de faire tout ce qu'elle pouvait pour lui pourrir la vie. Et honnêtement, si elle avait pu le tuer dans son sommeil, je suis pas sûre qu'elle aurait dit non. Mais comme je vous ai dit, c'est pas facile de tuer quelqu'un aujourd'hui. Donc elle a juste décidé de lui pourrir la vie dans tout ce qu'elle pouvait faire. Tout ce qu'elle pouvait, tout ce qui l'irritait au plus haut point, elle le faisait. Et ça, vous vous rendez compte que, parce qu'elle, elle le faisait avec lui, mais elle, bon, je me rappelle pas d'elle dans ses relations avec d'autres gens, mais je peux juste imaginer maintenant que c'est difficile d'avoir une relation comme ça juste avec une personne. En général, c'est quelque chose qui va déborder dans notre vie. Et ça fait de nous quelqu'un de méchant, de réellement méchant. Et on est en train de semer, même si la personne nous a fait du mal, on est tout sauf en train de marcher dans l'amour, on est tout sauf en train de faire ce que Dieu nous dit de faire, de prier pour nos ennemis, de bénir nos ennemis, de pardonner nos ennemis. Et ça aussi, on en parlera un peu plus tard. Et il y a aussi tous les comportements extrêmes. Alors les comportements extrêmes, parce que quand on parle de gens blessés, on va quelquefois voir juste la personne toute fragile, qui n'ose pas parler, rejet, timide, etc. Mais il y a aussi tous les gens qui sont très extravertis, très exubérants, des gens qui ont toujours quelque chose à dire, des gens, quand ils sont là, c'est impossible de les manquer. Dans un groupe, qu'on soit 5, qu'on soit 10, qu'on soit 100, c'est toujours cette personne-là qu'on entend. C'est la personne qui parle le plus fort, c'est la personne qui parle tout le temps, c'est la personne qui rit le plus fort, c'est la personne qui crie le plus fort, c'est la personne incontournable. On ne peut pas passer, et c'est pas qu'elle a du charisme, c'est qu'elle est envahissante. Elle arrive dans un endroit, elle prend pas une chaise par sa personnalité, elle prend pas une chaise, elle en prend 10. Et là, ça écrase tout le monde. Elle en prend 10, qu'il y ait des gens ou pas de gens dessus. C'est comme ça vient étouffer. C'est des gens qui sont étouffants. Au premier abord, c'est des gens, ils peuvent être sympathiques, mais c'est des gens dans leur présent. Tu te fatigues, t'es là. Tais-toi. Par pitié, tais-toi. J'en peux plus de t'entendre parler. C'est insupportable. Vous entendez qu'à la fois, il y a des bruits qui viennent nous agresser. Qu'à la fois, quand on commence à être fatigué, il y a une musique là. Et c'est fatigant. C'est grave. Là, faut l'arrêter. Faut vite arrêter la musique. Mais on peut mettre pause. Mais les gens, c'est difficile de leur mettre pause. Parce que quand il n'y a pas de bouton sur les gens. Et qu'à la fois, c'est délicat de leur dire, tais-toi, tu me fatigues, je n'en peux plus de t'entendre. Et ces gens-là prennent de la place, ils fatiguent, ils sont fatigants, vraiment, ils sont fatigants, ils sont étouffants, quelqu'un veut parler, il coupe la parole, et puis finalement, tout le monde est un peu renonce à vivre en leur présence, puisqu'ils sont en train de prendre tout l'oxygène qu'il y a de possible dans la salle. Tout ce qu'il y a à dire, c'est eux qui le disent. Tout ce qu'il y a à faire, c'est eux qui le font. Tout ce qui a été fait, c'est eux qui l'ont fait. Ils sont constamment en train de se mettre en avant, en train de se vendre quelque part. Pourquoi? Est-ce que c'est, comme j'ai dit, c'est pas des gens qui ont du charisme? Parce que des gens qui ont du charisme, c'est des gens qui sont attirant dans le bon sens du terme. Il y a quelque chose en eux qui attire quelque chose. C'est pas étouffant, c'est pas écrasant. Mais là, c'est des gens vraiment étouffants et écrasants et envahissants. Et on se dit juste, laisse-nous respirer, fais de la place. C'est comme t'es dans une voiture et puis qu'au lieu d'être 2 à l'arrière, on se retrouve à 6 à l'arrière. Donc, et tu te sens constamment comme ça quand t'es avec la personne. Et tu vois que quand t'es là, les gens ont l'air fatigués. Les gens ont l'air fatigués. C'est que peut-être tu les fatigues, c'est sûr, mais que derrière cette nature exubérante, derrière cette nature extravertie, derrière cette nature envahissante, t'es juste en train de cacher une blessure, en train de cacher de l'insécurité. T'es comme une grosse bouée ou un gros ballon qu'on gonfle jusqu'à ce que ça... Pow ! À l'intérieur, il n'y a rien. C'est juste de l'air. C'est juste pour les apparences. C'est juste pour donner l'illusion aux gens que t'es quelqu'un qui est rempli de confiance, mais t'as tellement pas de confiance que t'es obligé d'en faire 10 fois plus que des gens qui ont aucun problème de confiance en eux et qui ont pas besoin de se faire remarquer parce que leur valeur n'est pas dans l'approbation ni dans le regard des autres gens. Mais toi, t'as été blessé. On t'a jamais vu, on t'a jamais écouté, on t'a jamais considéré. On a toujours dit, toi, t'es l'idiot, toi, t'es l'idiote de la famille, tu feras jamais rien. Et du coup, t'es tout le temps en train de faire savoir que tu sais, en train de faire savoir que tu as fait, en train de faire savoir que ceci, que cela, et que tout tourne autour de toi. Et c'est comment tu peux le savoir aussi, le deuxième indice pour le savoir, c'est examine tes phrases. Quand les 3/4 de tes phrases commencent par « moi, je, moi, et pour moi, et moi, je, moi, moi, moi », là, tu peux te dire que t'es relativement tourné vers toi-même et que... Mais c'est ça, t'es un petit peu égocentrique et envahissant. Et pourquoi est-ce que tu fais ça? On dit les gens qui ont moins de culture, c'est ceux qui l'étalent le plus. C'est ça? Ouais. Pourquoi? Parce que pour le peu qu'on a, on veut l'étaler, on veut le rentabiliser, on veut donner l'impression qu'il y en a beaucoup. C'est comme les gens qui commencent à se dégarnir, ils aplatissent bien leurs cheveux là pour cacher le trou derrière. Mais... Personne ne le prend personnellement, hein. Mais pour ceux qui le vivent mal. Mais c'est un cache-misère parce qu'au final, tout le monde le voit que tu as juste 3 cheveux au milieu de la tête, tes 3 cheveux que tu veux absolument pas couper et que tu prends un soin à vraiment bien peigner comme si tu avais une chevelure flamboyante. Tu prends même un petit après-shampoing pour tes petits cheveux. Mais c'est ça, tu as juste 3 cheveux, mais tu t'en occupes comme si tu avais une grosse chevelure. Et là, tu as tellement pas de confiance en toi que le peu que tu as, tu es en train de le balancer à tout le monde, en train de l'étaler et en train de t'étaler. Et tu te fatigues toi-même, le soir quand tu te couches, tu n'en peux plus de toi-même. Tu te dis, mais tais-toi toi-même, j'en ai fatigué là tous de t'entendre. Et c'est parce que tu es en train de cacher cette insécurité, en train de cacher ce vide. Et à l'autre extrême, il y a les gens qui sont totalement... serpillère, totalement tapis. Alors eux, ils ont d'avis sur rien du tout. Oh, c'est, elles sont belles ces chaises-là. Oui, 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 elles sont belles. Et quelqu'un d'autre passe après. Oh là là, ces chaises-là, c'est vraiment n'importe quoi. On n'est pas bien assis. Ah bah oui, c'est vrai, hein. C'était quoi ton avis là-dedans? Constamment, la personne, c'est même pas qu'elle a menti à la première ni à la deuxième, c'est que elle se méprise tellement qu'elle se permet pas d'avoir un avis. Si la personne a dit cette chaise-là, on est vraiment bien assis dessus. Ah oui, ça tient bien le dos. Ben, elle doit mieux savoir que moi, donc oui, je dis oui, 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 tu as raison. Mais l'autre personne qui arrive, oh là 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 là, on est mal assis ici, dis donc. Ah oui, 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 t'as raison. Elle n'est pas en train de mentir réellement, c'est juste qu'elle n'a vraiment pas d'opinion. Enfin, elle n'en a pas parce qu'elle ne cherche pas à en avoir. Elle se dit, bon, bah, il doit avoir raison aussi. Et quand tu mens, et toi, tu penses quoi? Oh, bah, là, on veut froisser personne, on veut blesser personne, on n'ose parler à personne, on veut déranger personne, on veut être en désaccord avec personne, Bref, on ne veut rien, puis finalement, on se retrouve totalement tout seul. On a peur des gens, on a peur de leur déplaire, on a peur que eux soient aussi pas d'accord avec nous. Du coup, on fait notre petite vie, on est très discret, et là, les gens disent « Ah non, non, moi, je suis discrète, j'aime pas déranger. » Est-ce que vraiment, t'es discrète et t'aimes pas déranger, ou est-ce que c'est parce que t'as peur des gens? Est-ce que tu te sens tellement mal à l'aise quand il y a des gens, comme j'ai dit au début, que ton cœur est là en train de battre juste pour dire... Quand tu vas à la boulangerie demander juste un pain et que tu fais ta phrase 10 fois dans la tête pour demander un pain parce que tu sais pas trop et qu'au moindre imprévu, t'es en grosse panique. C'est pas que t'es discret, c'est que t'es complètement lié, emprisonné et captif par la peur. Que t'as tellement peur des gens que tu ne t'autorises même pas à vivre, tu ne t'autorises pas à avoir un avis, tu ne t'autorises pas à avoir une personnalité, tu ne t'autorises pas à avoir une opinion, à penser. Tu te dis forcément que l'autre a raison. X ou Y, oui. C'est, on est d'accord. Et puis, quelquefois, ces gens-là passent pour des gens un peu simplets ou des gens hypocrites. Des gens simplets parce que tout ce que tu leur dis, oh oui, elle ne comprend rien à ce qu'on dit. Oh oui. Et ça m'arrive, en fait. Quand on finit par me dire, mais vous parlez français, madame ? Oui. Ah, d'accord. Là, je lui ai dit que j'ai peut-être une... oui, d'accord. Ou des gens simples, ou alors des gens hypocrites. Mais pourquoi tu viens de dire ça, oui à lui, alors que tu viens de me dire non à moi? Et là, les gens, à l'intérieur d'eux, c'est la panique totale. Ok, là, je viens de créer une dispute, je vais créer un conflit, c'est horrible. Et en fait, ces gens-là, t'as pas vraiment envie non plus de développer une relation avec eux, parce que on développe des relations avec des êtres humains, parce que on veut parler avec des gens qui, avec qui on va interagir, et pas un ordinateur ou un perroquet. Oui? Non? On prend un café? D'accord. C'est comme tout ce que tu dis, c'est oui et amen. Il y a jamais aucune opinion. C'est pas des gens qui sont faciles à vivre. C'est pas des gens qui sont discrets. C'est pas des gens qui sont tranquilles. C'est des gens qui ont peur. C'est des gens qui sont complètement captifs. Des gens qui ont tellement peur, tellement peur, et qui sont dans une insécurité totale. Ils sont comme, on va encore reprendre notre exemple des petits animaux, mais un petit chien. Depuis que j'ai un chien, j'ai développé une passion canine. Mais directement, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, lui, il va pas être hargneux. C'est une des manifestations pour avoir été maltraité, avoir été blessé, comme on l'a dit, l'agressivité. Mais il y en a d'autres, ça va se manifester d'une autre manière. Ils vont aller se cacher. Le petit chien, il va aller se cacher dès qu'il y a quelqu'un qui arrive. Il est là, il se cache parce qu'il a peur de se prendre un coup, parce qu'il s'est déjà pris des coups. Et nous, il y a des humains, et ben c'est ça, ils ont tellement peur encore de se prendre des coups, ou des enfants qui ont été maltraités. Tu passes juste devant eux, tu fais ça. Genre moi qui parle avec mes bras, là, ils sont tout le temps en train de faire ça parce qu'ils croient qu'ils vont s'en prendre une, qu'il y en a une qui va partir, parce que dans leur vie, il y en a plus d'une qui est déjà partie comme ça et sans raison, et parce qu'ils ont été maltraités, ils ont été élevés dans la violence. Et ces enfants-là, tu fais juste quelque chose qui ressemblerait, mais qui n'est même pas, tu n'as aucune intention de les frapper, mais un geste qui leur fait penser à ce moment de violence, ils vont avoir ce réflexe d'autoprotection, ce réflexe de se cacher. Et encore une fois, il y a des gens, ils vont réagir à l'extrême, qui sont agressifs, comme j'ai dit, qui répondent par la force. Tu n'allais pas du tout les frapper, juste tu lèves la main, et là, bam, il t'en met une, ou cas où que tu allais lui en mettre une aussi, c'est lui le premier à frapper. Donc tout ça, c'est des symptômes pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de nous, et pour nous dire que je ne peux pas bien aimer les gens parce que j'ai un problème en moi-même. Et quand la Bible me dit « aime ton prochain comme toi-même », ben je vais les aimer avec ses blessures, et je vais les aimer de la mauvaise façon, et je vais les blesser. Et comme je vous l'ai dit, on se retrouve tout seul à cause... Bon, il y a des gens qui ont vraiment tout le paquet, hein, le package complet de la blessure totale de A à Z. Ils sont agressifs, ils sont méchants, ils ont de la haine, ils planifient des meurtres, etc. Mais il y a des gens, ils ont pas forcément tout, ils ont peut-être juste un des points. Mais ce point-là revient systématiquement dans leur relation et éloigne des gens. Il y a des gens, on s'en fiche, qui s'éloignent, mais il y a des gens, ça nous fait du mal. Et il y a des gens, ça nous fait du mal qui s'éloignent parce qu'on les aime. Et parce qu'on a le sentiment de les avoir aimés, et on a le sentiment qu'ils n'ont pas reçu cet amour et qu'ils sont partis. Et on entend quelquefois dire « Mais j'ai tout fait pour lui, j'ai tout donné pour lui. » Mais comment est-ce que tu as tout fait pour lui? Comment est-ce que tu as tout donné pour lui? Et il y a des gens, ils aiment leur manière. On parle de meurtre hein, ce soir encore, mais il y a des meurtres passionnels. Des gens qui ont dit « Mais je l'aimais tellement que je l'ai tué. » Et est-ce qu'on peut dire, oh, bon, bah, c'était l'amour, donc, bah, écoute, vu que tu l'aimais, on comprend, parce qu'on s'aime tous d'une manière différente, donc, c'était ta liberté de pouvoir l'aimer. Mais la Bible nous a dit de ne pas faire cette liberté une excuse. Et on ne peut pas faire de notre liberté une excuse pour mal aimer les gens. Se cacher derrière le fait, oui, bah, écoute, moi, je suis comme ça. Et comme le pasteur Alain Patrick a dit, bah, peut-être que toi, comme ça, peut-être que cette version de toi, c'est pas la bonne version de toi, et que tu devrais changer de version de toi. Et que, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, que c'est pas toi en fait, c'est juste pas ta personnalité, tu réagis, ça ne t'appartient pas. Si tu n'avais pas été blessé, si tu n'avais pas vécu ces choses-là, si tu avais déjà été guéri, tu ne réagirais pas comme ça. Ça ne ferait pas partie de ta vie. Tu n'aurais pas cette tendance à répondre, cette tendance à soupçonner le mal, cette tendance à vouloir ce que l'autre a, à critiquer ce que les autres ont parce que toi, tu ne l'as pas. Tu n'aurais pas cette tendance à te sentir constamment menacé. Et ça aussi, la menace, se sentir constamment menacé, ça va provoquer du contrôle. On va devenir contrôlant parce que on a peur. Encore une fois, c'est la peur qui nous motive, c'est la peur qui nous pousse à agir de cette manière-là. Et la peur n'est pas un bon moteur. La peur n'est jamais un bon moteur. La peur ne nous pousse jamais à prendre, en tout cas à prendre les... Quelquefois, ça nous pousse à prendre les bonnes décisions, mais pas de la bonne façon et pas appliquer les bonnes décisions de la bonne façon. Comme quelqu'un qui décide qu'il ne trompera pas sa femme parce qu'il a peur de se faire avoir par sa femme. Il prend la bonne décision, en effet, de ne pas tromper sa femme, mais il n'applique pas cette décision de fidélité de la bonne façon parce que lui, son but, c'est de chercher un moyen de ne pas se faire avoir. Par contre, quelqu'un qui est motivé par l'amour et va prendre la même décision, mais va bien appliquer cette décision dans sa vie, il y aura des bons fruits et ce ne sera pas des fruits de frustration, des fruits de vouloir s'échapper de la règle, s'échapper de notre choix, de notre bon choix. Donc la peur n'est jamais un bon moteur et dans nos relations, on peut faire certains choix par la peur, mais on peut faire les meilleurs choix et surtout développer à long terme des bonnes relations seulement si on est motivé par l'amour. Et donc je parlais de la menace, se sentir constamment menacé que l'autre va te prendre quelque chose, l'autre va prendre ta place, l'autre va faire quelque chose que tu ne vas pas contrôler, ça peut te rendre manipulateur et contrôlant. Et là, tu te rends compte que quand il se passe quelque chose, t'as toujours besoin de tout savoir. C'est même pas que t'es vraiment curieux, c'est juste que quand tu le sais pas, tu te sens complètement impuissant. Là, d'un seul coup, c'est comme si on te retirait les mains de ton volant et que la voiture allait partir dans n'importe quel sens. Et ou alors, c'est pas vraiment que t'es contrôlant, mais pour donner une image, quelquefois, quand il y a quelqu'un qui conduit à côté de nous et qu'on se sent pas en sécurité, on appuie sur notre frein imaginaire quand on est en passager. Il y a pas de frein là, c'est comme ouh, et ça a absolument aucun effet. Et quand on est contrôlant, on essaye de conduire la vie de quelqu'un d'autre, on essaye de conduire à la place de quelqu'un d'autre. Mais il y a rien de plus dangereux que d'être à quatre mains sur un volant. Là, c'est dangereux. Moi, je vais aller là. Il n'y en a qu'un seul qui a les pédales, ça crée un accident à quasiment tous les coups. Ça n'a pas créé d'accident encore, tant mieux, mais ça va en créer un. C'est pas comme ça qu'on apprend à conduire. Chacun son volant. Il n'y a pas deux volants dans les voitures parce qu'une voiture va dans une seule direction par un seul conducteur. Quelquefois, on est passager. Quand on est passager, on doit accepter la conduite de l'autre. Et quand on est conducteur, on a la responsabilité aussi de notre passager que si on a dit qu'on allait dans telle direction, on va dans telle direction, on a la responsabilité de respecter les limitations, la responsabilité de respecter le code de la route. Et dans notre vie, c'est la même chose. Il y a des domaines de notre vie où on est au volant de notre voiture. Dans une famille, par exemple, si vous êtes parent, vous êtes au contrôle de votre voiture et vos enfants sont dans la voiture, donc vous avez la responsabilité de les conduire au bon endroit. Mais il y a d'autres domaines de notre vie où on n'est pas au contrôle. On est là parce que aussi vos enfants vont grandir, eux aussi vont commencer à prendre leurs propres décisions et on est tout le temps là derrière eux en train de savoir qu'est-ce que tu fais, où tu vas, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as dit ça, pourquoi t'as dit ci. Et dis-moi tout dans tous les détails. Et je vous dis, c'est pas quelque chose qui est motivé par la curiosité parce que tu t'en fiches un peu de l'information. C'est juste que ça te rassure de savoir. T'as besoin de savoir pour être rassuré et tout ce que tu ne sais pas, ça t'angoisse. Ça t'angoisse de savoir, de ne pas savoir tous les détails. Ok, on va aller des gens contrôlants, c'est souvent des gens manipulateurs. Parce que pour arriver à leur fin, parce que quand on est adulte, quelquefois, si quelqu'un nous dit, bah, je sais pas, donne-moi 100 dollars. Non, donne-moi 100 dollars. Ça se peut qu'en adulte, on puisse dire, non, je veux pas te donner 100 dollars. Mais là, je veux savoir ce que tu fais de tes finances. Je veux que tu me donnes tes 100 dollars parce que je veux être sûre que tes 100 dollars, tu vas pouvoir aller payer ta facture d'Hydro-Québec avec. Tu dis, mais pourquoi tu veux faire ça? Je suis capable de le faire. Non, je veux être sûre. Quand c'est moi qui le fais, je suis sûre que ça se passe bien. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, je vais m'assurer que toi, ta facture, elle est payée. Et là, si on le dit de but en blanc à des gens, ils peuvent refuser parce qu'ils se disent bah, « mêle-toi de tes affaires ». Mais là, tu commences à les manipuler. « Non, mais tu sais, ça me ferait tellement de la peine que tu te retrouves sans électricité. Et puis, tu sais, j'ai vu beaucoup de gens à qui ça arrivait. Puis, j'ai déjà fait ça à plein de gens. Et vraiment, ça les soulève. Non, je vais le faire pour toi. Laisse-moi le faire. » Puis là, on commence à jouer avec les émotions des gens, etc. Pour qu'au final, les gens fassent tout le temps ce que nous, on veut. Parce que ça nous soulage de savoir ce que les gens vont faire. Ça nous soulage de connaître les réactions des gens. Ça nous soulage de savoir où les gens vont aller. On est au contrôle de tout. Et comme ça, on se sent tout le temps comme celui qui est en train de tout commander et on peut pas être déçu, on peut pas être blessé. Si je lui dis quoi faire, si je lui dis comment faire, si je lui explique de A à Z tous les points, je suis certain qu'il n'y aura pas d'erreur, je suis certain qu'il n'y a rien qui va venir me faire du mal, je suis certain qu'il n'y a rien qui va venir me blesser, j'en suis certain. Et le contrôle est quelque chose qui vient manger la liberté des gens. Et ça aussi, c'est étouffant. Et les gens contrôlants, les gens manipulateurs, on voit dans des relations, il y a des gens qui n'arrivent jamais à s'en défaire. Ils n'arrivent jamais à exprimer pleinement qui ils sont parce qu'il y a tout le temps quelqu'un au-dessus d'eux qui est en train de leur dire quoi faire, en train de leur dire comment le faire. Quelquefois, c'est des mères qui restent très contrôlantes sur leurs enfants et sur leurs fils ou leurs filles. Et même quand leurs propres enfants, leur famille, c'est la mère qui dit tout comment ça doit être fait dans la maison. Ah non, non, non. Nous, on fait comme ça. Et là, la belle-fille, elle est comme obligée de faire ce que sa belle-mère a dit parce que son fils, sinon, il est complètement perdu parce qu'il a été habitué à être contrôlé, il a été habitué à être manipulé. Et là, il est devenu un peu pantin. Mais comme j'ai dit, on ne veut pas des gens comme ça. On ne veut pas créer des gens comme ça. Et quand on est contrôlant, on crée des gens qui sont des pantins. On lève à droite, ça se lève à droite. On lève à gauche, ça se lève à gauche. On met stop, on met stop. Non, on veut investir dans les gens. On veut transmettre de la vie. On veut apprendre, instruire quand c'est nos enfants pour qu'eux puissent marcher dans leur liberté et être autonomes. Et donc, la peur d'être menacé aussi, ça fait que on va agir comme ça. Quelqu'un arrive dans ton travail personne n'a dit qu'il devait prendre ta place. Personne n'a jamais dit ça, mais toi, tout de suite, parce que t'es totalement insécure, t'es là en train de protéger. Et je vais continuer avec mon exemple de chien. C'est que t'es en train de marquer ton territoire. Les chiens, ils marquent leur territoire. Ils vont faire des petits pipis ici et là. Et c'est pour dire aux autres chiens, c'est mon territoire aussi, ici. Tu rentres pas. Ici, c'est chez moi et je veux bien que tu le saches. Et quelquefois, on réagit comme ça. On est en train de marquer notre territoire avec les gens en posant des actes, en disant certaines paroles, en disant bah, « En tout cas, si toi, t'es venu ici pour prendre mon travail, je vais te dire que tu l'auras jamais. » Alors qu'il était absolument pas question de ça. Tu viens de détruire une relation, tu viens de détruire une atmosphère de travail, tu viens de pourrir ta vie au travail parce que toi-même, tu te mets déjà en concurrence avec quelqu'un que tu t'es imaginé. Et tout le monde qui rentre dans ta vie, c'est comme ça. Et du coup, tout le monde repart parce que tout le monde est ton concurrent. Tout le monde peut te prendre quelque chose. Et même dans les familles, des mères peuvent se sentir menacées par leur fille parce que la fille prend trop d'importance aux yeux du père. Et du coup, la mère commence à détester sa fille, à lui en vouloir parce que oh, ton père t'aime trop, ton père est trop intéressé par toi, il n'y a que toi qui compte, etc. Ça peut être dans des amitiés. Quelqu'un qui se... Quand tu as tes amis et que tu te rends compte que tu n'aimes pas ça quand tes amis se font des nouveaux amis. Là, tu te sens comme menacé, tu te sens pas bien, c'est comme, c'est quoi ces nouvelles personnes? Et puis tu leur cherches comme du mal, tu cherches à les critiquer, tu cherches à les diminuer aux yeux de tes amis, parce que tu veux être sûre de rester la seule amie. Pas parce que ces gens-là ne sont pas bien, mais parce que toi-même, tu te sens menacé. Chaque personne qui vient dans ta vie, c'est comme si elle pouvait prendre ta place. Et pourquoi? Parce que tu ne connais pas ta valeur. Tu ne sais pas que là où Dieu t'a placé, tu ne sais pas que ce que Dieu t'a donné, il n'y a aucun homme, il n'y a aucune femme qui peut te le voler, qui peut te le reprendre. Aucune position. Et pour la dernière, le dernier point, c'est ça. Le dernier point, c'est de créer des relations superficielles. Ça, de créer des relations superficielles, c'est assez, ça a l'air bien, parce que on a quand même des relations un peu avec tout le monde. On est le gars ou la fille sympathique. Salut, ça va? Ouais, ça va, super, il fait beau, super beau aujourd'hui. On parle de choses super superficielles, jamais de disputes, jamais un mot plus haut que l'autre. Bref, mais il y a, en fait, quand tu... Et puis sympathique, hein, y a des gens très sympathiques, très joviales, très joviaux. Bah, très sympathique, ils vont te serrer dans leurs bras, ça va. T'as comme une impression d'intimité avec ces gens-là, où toi, tu crées une impression d'intimité avec ces gens-là, mais dans le fond, tu sais que ces gens-là, ils te connaissent pas. Tu sais qu'il y a une barrière qui est là, une barrière invisible que les gens ne franchissent pas. Oui, salut, ça va, on parle un peu des enfants, un peu du beau temps, un peu du travail, un peu des vacances, mais... jamais rien de personnel. Tu fais bien attention de ne rien livrer de personnel, de ne rien livrer de trop intime et de garder cette limite ici. T'es ici, ça c'est mon périmètre de sécurité. Quand on apprend à conduire, on dit qu'il faut pas trop s'approcher des autres voitures pour avoir le temps de freiner en cas de... Si l'autre voiture devant, elle freine trop brusquement, nous aussi on a le temps de freiner, notre voiture aura le temps de s'arrêter. Et là, on crée cette distance de sécurité au cas où il y aurait un accident. Parce qu'on sait que si la personne rentre dans notre intimité, cette personne-là, on lui laisse la possibilité de nous blesser. Et si tu penses comme ça, tu penses mal. Quand une personne entre dans ton intimité, qu'une personne développe une relation avec toi à différents degrés d'intimité, pas forcément les meilleurs amis du monde, mais juste un peu plus que ce que tu fais, c'est une possibilité d'aimer, une possibilité d'être aimé, une possibilité de faire confiance, une possibilité d'avoir une relation saine et équilibrée. Mais toi, constamment, tu vois ça comme une distance de sécurité à ne pas franchir. Après, ça crie danger, 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 intrus, 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 il y a un intrus, il y a un intrus. Et là, c'est comme la panique. Et là, d'un seul coup, tu te refroidis avec les personnes parce que tu t'es laissé un petit peu trop aller dans ta relation. Tu te refroidis avec la personne. La personne, elle revient, elle pense que vous êtes super amis, vous avez bu un café ensemble. Et là, tu t'es un petit peu ouverte sur ta vie. Et là, tu regrettes, tu dis non, c'est sûr, elle va se servir de ça, puis elle va me poignarder dans le dos. Et là, la personne, elle revient, elle pense qu'on a fait un pas en avant, on est devenu plus proche. Puis là, la personne, elle fait comme si elle te connaissait pas. Ouais, salut. C'est comme, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? T'as rien fait du tout. C'est juste que la personne, elle a pris peur et elle s'est éloignée pour regagner son périmètre de sécurité. Et dans ces cas-là, on développe des relations, mais on n'en développe aucune jusqu'au bout parce qu'on met les gens en dehors de notre vie. Et puis les gens, après, quand ils sont mis en dehors de, ils sont chassés comme ça, les gens sont blessés à leur tour. Et les gens vont refaire la même chose, les gens vont reproduire après le même cycle, et c'est sans fin. Et c'est ça le problème des relations, c'est qu'une relation qui marche mal, souvent, ça crée une blessure chez l'autre qui n'en avait pas, et à son tour, il va développer des relations toutes bizarres, des relations toutes tordues, et ainsi de suite, et c'est comme ça que ça se propage, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus réels, ne sont plus authentiques, ne savent plus vraiment sur qui compter dans la vie, et ont peur de s'engager, ont peur de s'investir. Et ça, c'est se mettre une carapace et rien de mal va m'arriver, mais rien de bon ne m'arrivera non plus. Et comme ça, on est en sécurité, d'accord? On enlève toutes les possibilités de se faire attaquer, mais toutes ces possibilités de se faire attaquer, comme tu vois, c'est des personnes que Dieu aussi envoie dans ta vie pour être des sources de bénédiction, pour être des sources de consolation, des sources de bénédiction pour te rebâtir, pour te reconstruire, pour réapprendre à faire confiance. Et c'est certain que ça demande de la foi, ça demande du courage que de s'ouvrir à nouveau quand on a été blessé. Mais les gens qui n'ont pas réglé leurs problèmes sont des gens qui ont mal terminé, des gens qui ont terminé seuls, qui ont terminé aigris, qui ont terminé amers. Après, David, on l'a dit, David a quand même évolué. Mais David, même après, a été persécuté encore par Saül. Il aurait pu dire, bah là, ça suffit. Ça va faire. C'est bon, là. C'est bon. Il y a déjà eu le père, les frères. Ça va aller. Sérieusement, Goliath, je l'ai tué. Saül, je tue tout le monde pour lui. Qu'est-ce que je récolte? De la jalousie, de la haine, de la persécution. C'est quoi le problème? Tout le monde m'en veut. Moi, dans la grotte, je vais y rester. Et puis, c'est comme ça. Non, David n'a pas eu cette réaction. Et David aurait pu choisir de dire, je choisis de ne plus faire confiance parce que j'ai été trop blessé. David a choisi de faire confiance. Joseph a choisi de faire confiance aux mêmes personnes, a choisi de bénir les mêmes personnes qu'il l'avait vendu. Imaginez quand même, c'est que c'est un d'accord. Et c'est pour ça que ce n'est jamais, jamais la bonne solution, ce n'est jamais la solution de Dieu que de se dire « je reste comme je suis » parce qu'on ne me blessera pas. Et là, ces gens-là, si vous êtes comme ça, cette carapace, et j'appelle ça les gens un peu hérissons, tu t'approches un peu trop près, là, il y a les pics qui sortent, et là, c'est sûr que bah, tu t'éloignes, parce que ce qui avait l'air beau, tout mignon, tout doux, oula, on va pas trop s'approcher, et là, on se recule, puis les gens souffrent de solitude. La solitude, c'est un des mots les plus répandus. C'est ce que les gens vont vous dire, les gens qui vivent seuls, ils vont dire, moi, ce qui me fait le plus de mal, ce que j'ai le plus de mal à vivre, c'est la solitude. Mais ces gens-là, pourquoi sont-ils seuls? Parce que la plupart du temps, ils ont développé ce genre de réaction. Ils ont fait fuir les gens un par un dans leur vie. Et ça commence par les gens qui sont pas obligés de vous côtoyer. Les gens qui sont pas obligés de vous côtoyer, et vous voyez qu'ils s'en vont systématiquement, bah là, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'ils sont pas obligés, donc quand on n'est pas obligé et que c'est pas agréable, bah on s'en passe. C'est juste simplement ça. Après, il y a des gens, ils sont un peu plus obligés de vous côtoyer. Genre vos collègues. Parce qu'il y a des heures de travail, mais en dehors du travail, ils veulent sûrement pas vous voir. Ils vous croisent à métro, ils vous disent même pas bonjour. C'est que peut-être qu'il n'y a pas trop d'affinité avec vous. Et après, les gens qui sont vraiment obligés de rester avec vous, quelquefois, ça va être vos enfants, votre mari, et vous les faites souffrir. Vous les faites vraiment souffrir au jour, à chaque jour, c'est un jour de souffrance, un jour d'humiliation, un jour d'agressivité, un jour de mépris, un jour de rejet de plus pour eux. Et vous êtes en train de construire des mini-vous qui vont se reproduire comme ça, qui à leur tour risquent encore de blesser. On dit le blessé blesse, et c'est pour ça qu'il y a une nécessité d'accepter la guérison de Dieu, d'accepter, oui, j'avais une de ces choses, je marchais avec ça, je réagissais selon ça, mais ce soir, je décide d'y renoncer. Je décide d'y renoncer parce que je crois la parole de Dieu. Je crois que Dieu a quelque chose de meilleur pour moi. Et je crois que c'est le temps aussi de mettre fin à ce cycle de relations échouées, de relations de blessures, de relations où je blesse, de relations où je suis blessée. Et je veux apprendre à bien aimer. Et c'est un nouveau point de départ dans votre vie, parce que là, vous vous rendez compte que vous avez mal aimé jusqu'ici, mais qu'aujourd'hui, vous pouvez aimer, mais de la bonne façon. Et ça, ce sera la semaine prochaine.
Mais gloire à Dieu, c'est bon. Il y a plein d'illustrations. Annabelle pourrait gagner un Oscar pour les illustrations. Hein? Elle nous fait rire, on voit plein de gens. Je suis allé sur Internet, Annabelle, pour voir un hérisson. Là. C'est quoi, au juste? Et puis, je pense que je vais mettre ça sur ta page Facebook avec un verset. Mais c'est très bon, il y a plein de choses. Donc, la bonne nouvelle de toute cette chose-là, on a vu dans nos têtes plein de personnages, n'est-ce pas? Toutes sortes de problèmes, des personnes qui ont toutes sortes de blessures, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus peut tout guérir, n'est-ce pas? C'est ça la bonne nouvelle, c'est que si ce soir, vous vous êtes vu et vous dites, oui, c'est vrai, moi, je suis comme ça, je suis susceptible, je me sens rejeté, je me sens comme ci, comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que peu importe la blessure, Dieu peut guérir, mais il faut passer du temps avec lui et laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre en nous. C'est ça hein, qui est merveilleux. Puis ce soir, ce qu'on va faire, on va terminer avec un mot de prière. Mais j'aimerais ça qu'on puisse vraiment prier pour nous-mêmes et pour l'Assemblée, que Dieu puisse faire son travail dans nos cœurs, parce que j'ai vu des gens transformés. Vous savez, absolument, à l'Église, il y a des gens qui sont arrivés qui avaient une sorte de prédisposition, si on veut, qui avaient des blessures, mais avec des années, avec la parole de Dieu, Dieu nous transforme, parce que la parole nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », n'est-ce pas? Donc, on peut être transformés dans nos façons de penser. Si, admettons, j'arrive dans une salle comme ici ce soir, puis peut-être, il y a quelques années, j'arrivais puis je me disais « Bien, tout le monde va me détester ici » ou « Je sais pas, je vais être la seule personne qui va être rejetée ». On peut penser comme ça. Mais quand on fait l'exercice et on dit non seulement je vais prier que Dieu me délivre, mais aussi là, il faut que je change ma façon de penser. Puis je peux méditer sur les versets de la parole de Dieu qui me parle comme à Dieu même, avec un amour éternel. Puis là, je peux méditer là-dessus. Puis ça, c'est important. Quand on prie, on prend des versets qui concernent notre besoin, on médite et on laisse l'Esprit de Dieu nous révéler des choses sur nous-mêmes. Donc, la prochaine fois, on sait quand je vais arriver dans cette classe, par exemple. Bien, je vais faire l'exercice de croire la parole de Dieu. Parce que c'est ça, notre combat, c'est un combat de la foi. Oui, on peut vivre une guérison instantanée, comme quelqu'un peut être malade et être instantanément guéri, mais en même temps, des fois, on doit marcher dans un chemin de la guérison. Des fois, il faut juste continuer dans le combat de la foi et résister au diable. Il fuira loin de nous, pas juste pour le péché, mais même avec nos pensées. Des fois, l'ennemi va revenir. Des fois, on peut s'imaginer on est totalement guéri. Puis des fois, Dieu va dire, il reste encore des choses parce qu'il y a des patterns, il y a des systèmes dans tes pensées où tu t'abaisses, où tu oses croire encore que les gens vont te rejeter. Mais on doit faire l'exercice et dire, non, Seigneur, je veux vraiment penser tes pensées sur moi-même et puis laisser Dieu nous guérir pleinement. Donc, on va juste terminer avec un mot de prière et soyez encouragés ce soir parce que Annabelle nous a fait beaucoup rire. C'est son don. Hein? En tant qu'enseignante, elle nous fait rire et puis on peut voir toutes sortes de personnages. Mais si on s'est vu ce soir, moi, je crois que Dieu veut commencer un travail en vous. Amen. Et l'Esprit de Dieu est dans cette place. Et puis, je crois que déjà ce soir, ça peut être une journée ou une soirée tournante pour vous. Vous allez dire, OK, ce soir-là, j'ai pris la décision que je me laissais transformer par Dieu. Amen, on va prier. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce soir, puis on veut te remercier, Seigneur, parce qu'on sait qu'à la croix, Jésus a tout payé pour nous délivrer et nous guérir. Et ce soir, Esprit de Dieu, nous te recevons dans cette place. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'on sait que quand on tourne vers toi nos regards, on peut devenir rayonnant de joie. Et Seigneur, on veut juste venir ce soir avec nos blessures. Et on t'invite, Esprit de Dieu, viens nous révéler les choses qui doivent changer en nous. Viens mettre vraiment ta main de guérison. Comme c'est écrit dans ta parole, tu viens guérir nos blessures. Tu mets ce pansement sur nos blessures pour nous restaurer totalement. Et Seigneur, on réalise que beaucoup de ces choses-là, c'est des problèmes dans l'âme, dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre volonté. Et Seigneur, on vient devant toi et on te demande, Seigneur, fais ton travail en nous. Fais ton travail, purifie-nous, Seigneur Dieu. Et Seigneur, on veut vraiment faire le ménage ce soir de toutes les choses qui viennent du royaume des ténèbres, les choses charnelles qui nous empêchent d'avancer. On veut venir vraiment devant ton trône ce soir et on t'invite, Esprit de Dieu, viens nous transformer. Seigneur, on veut guérir et on veut pas attendre jusqu'à la semaine prochaine quand Annabelle va avoir poursuivi dans ce thème. Mais ce soir, s'il y a des choses qu'on a vues en nous-mêmes, on veut vraiment t'inviter ce soir à faire ce travail en nous. Merci Seigneur Dieu parce qu'on sait que vraiment, tu es tout puissant. Nous croyons dans ta puissance. Nous croyons que c'est possible de changer. C'est possible de marcher dans cette vie chrétienne totalement libérée. Oui, Seigneur Dieu, nous croyons dans ta puissance. Et on te remercie, Seigneur, pour les changements que tu as déjà accomplis en nous. Mais Seigneur, on veut poursuivre, Seigneur, dans cette marche avec toi, pour marcher dans la liberté, puis aussi aider d'autres personnes qui arrivent à l'Église, pour qu'eux aussi puissent être totalement guéris du rejet, de toutes ces choses qu'on a mentionnées ce soir. Donc, on te remercie, Seigneur, pour Annabelle, pour son temps aussi, où elle a enseigné ce soir dans son temps de préparation aussi. On te remercie pour elle. On prie, Seigneur, que ton onction puisse continuer à augmenter dans sa vie. Merci aussi pour les personnes qui vont entendre ce message sur Internet. Nous déclarons qu'il y a plein de personnes qui vont recevoir des guérisons, qui vont se voir, mais qui vont aussi se tourner vers toi. Parce que par nous-mêmes, Seigneur, c'est impossible pour nous de se guérir. Mais Seigneur, on sait que toi, tu es capable. Tu es tout puissant. Nous te remercions, Seigneur Dieu, et nous te louons. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, merci beaucoup, Annabelle, et merci à tous et chacun.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.